On accueille sur le plateau trois intervenants pour parler de ce vaste sujet, la fast fashion. On accueille d'abord Cécile Cravero, qui est muséographe et ancienne étudiante du MEM, hein, qui est on va dire les études qui font des études de
De
muséographie,
muséographie,
expographie.
expographie.
Ok, et qui présente une exposition qui s'appelle Le Dessous de nos placards. Isabelle Robert, donc maître de conférence en sciences de gestion, consommation responsable et développement durable à l'Université de Lille. Et puis Denis Bonnel, membre du collectif Arajoie pour le climat. Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, la fast fashion, grosse question. Donc, qu'est-ce que c'est exactement la fast fashion? J'aimerais savoir d'abord votre définition, justement, à chacun et chacune de la fast fashion. On va commencer par Cécile.
Alors, la fast fashion, c'est le fait que des marques, donc de fast fashion, incitent les consommateurs et consommatrices à consommer beaucoup de vêtements. Et donc ces marques produisent très vite et à très bas prix.
Isabelle?
Alors la fast fashion, c'est un modèle économique qui s'est érigé avec plusieurs marques, dont Zara et H&M, qui est vraiment basé sur la vitesse et plus particulièrement sur des stratégies de bas prix avec une obsolescence programmée et donc effectivement une incitation continue à acheter des vêtements qui sont dans la grande majorité des cas copiés. C'est-à-dire que ce ne sont plus des vêtements créés, mais des vêtements copiés. Donc, les quatre mots-clés, c'est effectivement très bas prix, obsolescence programmée, copie et effectivement vitesse d'imitation, vitesse de consommation, vitesse de production, vitesse de délaissement.
Denis?
Pour le collectif pour le climat, on n'a pas une connaissance très précise du phénomène, mais on le replace dans le cadre plus général des questions de consommation, d'hyperconsommation et de la nécessaire transition vers de la sobriété énergétique et donc de la sobriété dans la consommation qui est absolument nécessaire pour rectifier les trajectoires climatiques sur lesquelles on se trouve.
Alors, qui peut me dire quand est-ce que c'est né la fast fashion? Apparemment, ça a commencé à émerger vraiment dans les années 90, si je ne me trompe pas.
Oui, on peut figer ce modèle économique à partir des années-là. Ce que je veux juste dire, c'est qu'on a quand même des transitions en cours, c'est-à-dire qu'au départ, la fast fashion était pour un marché de masse, mais c'est, je dirais, agrandi sur le luxe, puisque le luxe a copié aussi le modèle de la fast fashion. Et aujourd'hui, on voit naître depuis 3-4 ans l'ultra fast fashion.
Bah, comment elle fonctionne, cette fast fashion? Comment justement, voilà, c'est quoi le but? La rapidité, on l'a évoqué, le consommer beaucoup, et comment ça fonctionne? Comment les entreprises, justement, ces grosses entreprises, où est-ce qu'elles vont pour justement produire ces vêtements, Cécile?
Alors, les entreprises vont délocaliser les entreprises de production. Et en fait, ce qui est important de noter, c'est que ce ne sont pas les ateliers de confection qui vont donner la cadence, ce sont vraiment les marques qui vont demander aux ateliers de confection d'aller donc voilà, dans cette vitesse. Et si les ateliers de confection ne respectent pas les délais, les marques et les entreprises vont délocaliser dans d'autres pays où évidemment la main-d'œuvre sera moins chère, moins bien payée, mais qui va respecter donc ces délais très rapides.
Isabelle?
Alors on a deux modèles distincts au niveau de la fast fashion et de la façon de produire. Effectivement, on a une délocalisation, enfin déjà une fragmentation poussée à l'extrême de la chaîne de valeur avec deux modèles. Un modèle, je dirais, vraiment basé sur une compétitivité prix, dont les pays comme effectivement le Bangladesh, l'Éthiopie, le Myanmar sont en tête, c'est-à-dire que là on va vraiment se spécialiser avec des produits très simples, le t-shirt. Et puis on a aussi la Chine hein, qui crée des produits à plus forte valeur avec une intégration verticale, c'est-à-dire qu'ils vont maîtriser toute la chaîne et surtout ils ont compris en fait comment travailler sur la rapidité et en lien direct avec les attentes des consommateurs. Donc on a deux modèles qui sont en train de se déployer, qui sont en concurrence et effectivement les approvisionnements aussi entre ces deux façons de faire pour alimenter effectivement les collections continue dans nos magasins.
Et du coup, vous citiez ces pays, alors c'est quoi les avantages justement, ou plutôt les inconvénients que ces grandes entreprises vont dans ces pays-là? C'est parce que la main-d'œuvre est moins chère, évidemment, ça travaille, les conditions peut-être de travail, on y reviendra plus tard, mais sont, on va dire, presque punitives pour les employés?
Alors, selon les derniers chiffres de 2019, si on faisait un classement, je dirais, des salaires des différents pays dans l'industrie du textile. Tout en bas de l'échelle, on a l'Éthiopie avec un salaire mensuel de 23 euros. Ensuite, on a au même niveau le Bangladesh et le Myanmar qui est à 85 euros. Et petit à petit, ça remonte jusqu'à la Chine, hein, qui est plutôt autour de 300 euros. Donc effectivement, on a cet enjeu de compétitivité prix où globalement, on a des enseignes qui ont délocalisé en Éthiopie à 23 euros le salaire mensuel. Effectivement, là, le vêtement n'a plus de valeur. Enfin,
Je peux rajouter aussi que la main-d'œuvre sont essentiellement des femmes et des enfants dans ces pays. Donc le salaire des femmes étant moins élevé, ça fait un coût encore moindre.
Et les gouvernements n'interviennent pas parce qu'il y a des lois maintenant pour notamment le travail des enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait dans ce sens ou on laisse couler?
Alors effectivement, si on prend le cas du Bangladesh, on a eu beaucoup de manifestations des ouvrières suite à l'écroulement de cet atelier du Rana Plaza en 2014, avec de multiples manifestations. Ces manifestations ont quand même été réprimées, n'étaient pas du tout bien vues par le gouvernement, sous pression en fait des producteurs qui ne souhaitaient pas une augmentation du salaire. Pourquoi ? Parce que c'est l'avantage compétitif de ce pays. Hein. Rappelons que 80% des exportations du Bangladesh sont des exportations de textiles. Donc il faut garder, en fait, je dirais, cette compétitivité prix.
Puis on peut rajouter aussi les conditions de travail et les salaires qui sont très très bas. Vous avez peut-être des chiffres éventuellement à nous donner?
Là, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, 85 euros de salaire mensuel. Effectivement, avec ce salaire-là, vous êtes en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vivre décemment de votre salaire. Donc effectivement, avec des heures supplémentaires à gogo. Et quand on discute avec les marques, elles vous disent, le rôle s'inverse, c'est qu'elles vous disent qu'ils demandent des heures supplémentaires. Oui, évidemment, ils demandent des heures supplémentaires pour, ajouter, un petit peu de revenus à ce salaire très très bas.
Alors, pour en revenir au grand public, parce que nous, on achète des vêtements, forcément, en Europe, hein, un peu partout. Et est-ce qu'il y a une prise de conscience, vous avez constaté une prise de conscience quand même chez les plus jeunes, qui ne consomment plus les vêtements comme avant? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont conscients de comment c'est produit et par qui c'est produit, dans quel pays c'est produit?
Moi, je serais plutôt pessimiste, parce que le marketing manipule à outrance, et pour un ado, ou pour une ado, c'est hyper difficile de résister à toutes ces techniques de manipulation qui jouent sur la rareté, sur les réseaux sociaux, qui utilisent en fait les consommateurs, qui les font travailler en mettant en avant leurs vêtements sur des réseaux comme Pinterest, etc. On a TikTok là qui est une déferlante chez les ados avec notamment cette marque de ultra fast fashion qui s'appelle Shein. Et donc, effectivement, c'est toujours, pour le consommateur, il a toujours l'impression d'être une chasse au trésor, à se dire « je ne peux pas rater l'occasion ». Il y a aussi des consommateurs qui vont l'utiliser, on voit beaucoup d'ados, même d'étudiants, qui vont acheter des produits en spéculant. En fait, on est aussi dans cette idée de collector. Donc en fait, Et puis, on utilise toutes les célébrités, pour promouvoir la fast fashion. Enfin, on a vu par exemple Michelle Obama avec des produits d'H&M, Sharon Stone qui a été la première à mettre en avant la fast fashion avec Gap en portant effectivement un petit pull à col roulé. Enfin, donc toutes les techniques sont faites pour que le consommation il soit dans cette addiction. Enfin, c'est compliqué aujourd'hui On est vraiment dans de l'addiction. Et les marques font tout pour. Enfin, je veux dire, l'objectif, c'est quand même de rendre obsolète votre vêtement une heure après l'avoir acheté.
Alors, pour revenir à la première question, il peut y avoir aussi l'impression qu'il y a aussi un mouvement de gens qui refusent ça et qui sont prêts à, dans une démarche un peu militante et en espérant convaincre autour d'eux à ne pas du tout s'inscrire là-dedans. Le problème, c'est qu'on ne peut pas se contenter d'avoir une juxtaposition d'un secteur, des jeunes par exemple, qui accepteront totalement ça, et puis d'un secteur peut-être plus élitiste, peut-être plus minoritaire, qui le refuserait. Parce que, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse pour le climat, les émissions de CO2, il faut les multiplier par zéro à terme, et à terme de quelques dizaines d'années, par rapport à tout le temps qu'on a perdu depuis 40 ans, c'est très court. Et donc, il faut arriver à avoir des mouvements totalement majoritaires et quasiment unanimes de renoncement et de critique et de virage à 180 degrés par rapport au modèle économique actuel. Mmh. Et donc, on ne peut pas se contenter de ce mouvement qui est peut-être un peu développé dans la jeunesse, qui est de dire chacun a le droit d'avoir ses idées et puis il faut être tolérant avec les autres. Un jour, il faudra quand même arriver à ce qu'on... Il y a une quasi-unanimité contre cette fast fashion.
On y reviendra après aussi hein, avec vous, Denis, sur l'impact environnemental hein, de la fast fashion, parce que y a beaucoup de conséquences également. On parlait justement de la publicité. Alors vous vous dites, vous, pubophobe, hein, c'est bien ça ?
Publiphobe,
ouais. Il y a trop de publicité, et c'est vrai que peut-être que les réseaux sociaux, on peut évoquer éventuellement aussi les influenceurs hein, qui portent les marques et qui signent des contrats avec certaines entreprises justement pour dire il faut acheter ça, c'est vachement bien et c'est fun. Est-ce que c'est une déferlante ? Oui, Isabelle ?
Outre les influenceurs, il y a aussi les ambassadeurs.
Alors, les ambassadeurs... Donc,
les ambassadeurs, en fait, ce sont des gens qui aiment la marque et qui vont faire gratuitement, en fait, la promotion. C'est des gens qui achètent beaucoup, qui vont faire la promotion gratuitement dans leurs réseaux sociaux. On a vraiment, c'est plus que de la co-création. C'est-à-dire que le consommateur, sans le savoir, est utilisé, il travaille pour les marques, en fait. Et autant les influenceurs sont rémunérés, enfin, une partie d'entre eux. Les ambassadeurs, ce sont donc on va faire. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de gamification. On va leur donner une bonne image, etc., etc. Mais c'est assez pervers. Hein. Ils ont trouvé tous les outils pour effectivement pousser, influencer cette consommation.
Cécile ?
Oui, je voudrais rajouter pour rebondir sur l'idée de la publicité de la fast fashion, c'est que une anecdote importante à mes yeux, une des marques de fast fashion la plus connue, c'est Zara. Et Zara, par exemple, n'affiche pas de publicité dans les villes. Elle se sert la marque se sert des poches Zara, qui sont donc tenues par les consommateurs et par les consommatrices dans la rue. Et comme la marque Zara sait qu'elle vend énormément, elle sait que de cette manière-là, elle va avoir une visibilité dans les rues des villes.
Juste pour rebondir, je rebondis sur Zara. Zara a 48 millions de followers sur Instagram. H&M en a 38. En un an, ils ont gagné 8 millions. Donc il y a vraiment, en plus, c'est beaucoup moins cher de faire de la communication sur les réseaux sociaux. C'est des newsletters, effectivement, on a tout cette déferlante qui arrive constamment avec deux nouvelles par jour, pas trop le week-end, et effectivement, cette incitation à aussi utiliser le consommateur pour qu'il se photographie avec les vêtements, qu'il se mette en scène. Enfin, il y a toute cette question. En fait, la marque, elle ne fait plus grand-chose. Hein. C'est ses propres consommateurs qui font la communication de la marque. En fait, c'est vraiment on pousse de plus en plus, alors sous l'égide de la co-création, etc. En fait, on pousse de plus en plus les consommateurs à travailler pour les marques en se photographiant et en se mettant sur Instagram plus particulièrement.
Denis ?
Il devrait quand même pouvoir y avoir un moyen de se révolter contre ça, parce que déjà, qu'il y ait des gens qui s'appellent influenceurs sur Internet, pour ceux qui sont influencés par les influenceurs, être influencé, c'est quand même assez humiliant si on y réfléchit bien. Il y a quand même le proverbe qui commence à être bien connu par rapport à ce qui se passe sur Internet. Si quelque chose est gratuit pour vous, c'est que vous n'êtes pas le client, vous êtes le produit. Se dire qu'on est le produit de tout un système qui en apparence est fondé sur la gratuité, qui en réalité a des flux financiers très importants au service d'intérêts commerciaux très importants. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment humiliant de dire non, on est le produit. Il y a des gens qui font commerce de notre temps de cerveau disponible. On peut quand même espérer qu'un jour, il y aura une révolte contre ça.
Denis, est-ce qu'il y a des mouvements, une alternative? Est-ce qu'il y a des associations qui commencent à prendre le dessus justement sur ces et à essayer, on va dire, de dire attention, cette pandémie, on va dire, on peut dire ça entre guillemets, de publicité qui vous rince le cerveau, et alors que finalement, ça paraît facile pour quelqu'un d'aller acheter sur Internet la marque qu'il aime.
Alors, est-ce qu'il y a des mouvements qui sont en train de prendre le dessus ? Prendre le dessus, ça voudrait vraiment dire devenir totalement majoritaire et unanime dans la société, ce qui pour l'instant n'est pas le cas. Donc pour l'instant, c'est plutôt des mouvements qui essayent d'émerger, qui essayent de construire quelque chose à côté de la société. Mais le but, ça sera un jour de retourner vers la société pour dire ce qu'on a construit à côté, c'est quand même mieux. Vous devriez quand même comprendre que c'est à la fois plus respectueux de la planète, des générations futures. Les jeunes font partie des générations futures que notre génération à nous a malheureusement massacré depuis 40 ans au sujet du climat, mais eux-mêmes doivent prendre conscience par rapport aux générations qui viendront après eux. Et donc il faudra effectivement que ceux qui cherchent à construire une certaine indépendance vis-à-vis de tout ce qui est commercial retournent vers l'ensemble de la société pour les convaincre et arriver à une évolution massive de quelque chose qui protège le climat.
Isabelle ?
Oui, alors moi comme mouvement, alors c'est pas un mouvement, c'est des revendications. Je trouve que d'année en année, il y a quand même une lutte contre le Black Friday.
Le Black Friday.
Ouais. C'est peut-être un mouvement qu'on voit quand même s'amplifier, cette lutte, qui entraîne quand même des marques, très peu dans le vêtement, mais il y a quand même cette prise de conscience de ce Black Friday qui nous est importé. Qui arrive des États-Unis, avec ces marques certaines qui ferment leur site internet ce jour-là. Donc c'est quand même assez ambitieux de fermer son site le jour du Black Friday, puisqu'en fait ça devient, si mes souvenirs sont bons, la plus grosse journée commerciale de l'année. Hein. Le Black Friday a dépassé l'ensemble des différentes opérations commerciales. Donc peut-être dans les mouvements qui en prennent un peu plus d'ampleur, qui ont plus d'écho au niveau de la presse, au niveau du grand public, je dirais peut-être cette mise en abîme du Black Friday.
Il y a peut-être un moyen de montrer qu'il y a une ligne rouge qui est quand même essentielle vis-à-vis du climat. Et c'est un mouvement qui s'est développé depuis quelques années. C'est du suédois, alors je ne peux pas le prononcer comme il faut, mais c'est la honte de prendre l'avion. C'est un mouvement qui a été assez fort et qui quand même... À trancher par rapport à la période précédente où c'était quasiment inexistant cette prise de conscience. Et justement, c'est ce que me disait Isabelle tout à l'heure, fast fashion, il y a quand même un moment, une ligne rouge qui va être franchie, c'est le fait de ne plus faire venir des importations, avec tout ce qu'on a dit sur des importations, ça veut dire faire fabriquer dans des pays où les gens sont très peu payés. Mais d'un point de vue du climat, il y a encore une différence supplémentaire, c'est entre faire venir en bateau et faire venir en avion. Et donc, ce que me disait Isabelle, c'est qu'il commence à y avoir l'ultra fast fashion qui se distingue de la fast fashion par le fait qu'on fait venir maintenant en avion plutôt qu'en bateau. Et là, c'est complètement n'importe quoi, parce que pour quelque chose d'aussi futile que la mode, prendre une responsabilité aussi grave que de développer un transport qui n'est plus simplement un transport de voyageurs ou un transport de produits extrêmement urgents, mais du transport de marchandises qui pourrait quand même attendre un petit peu, peut-être que ça va susciter une réaction d'en être arrivé à une telle aberration.
Du coup, on va commencer à parler de l'impact environnemental de la fast fashion. Alors, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte, hein, notamment la pollution de l'eau avec les produits chimiques, la surconsommation de l'eau gourmande, hein, évidemment, pour le coton notamment. Et puis, pas que, puisque pas mal de produits un peu bizarres, hein, polyester, élastane, etc., etc., non biologiques. Hein, donc, ça commence à peser, Denis, cet impact où il y a encore moyen, évidemment... de le diminuer.
Alors quand on parle du coton, l'exemple plus évident, c'est la mer d'Aral. Donc l'humanité a réussi à faire disparaître une mer qui devait être grande comme une partie de la Méditerranée occidentale, enfin donc quelque chose quand même de très important, qui était une mer intérieure, et qui maintenant est réduit à l'état d'un petit lac bourré de pesticides, tout ça parce qu'en amont, il y a eu des plaines qui ont été irriguées à gogo pour faire du coton principalement. Donc c'est un exemple flagrant d'influence, comme quoi des activités humaines où on a l'impression qu'il y a quand même des grands équilibres dans le monde qui ne seront jamais bouleversés, ben là ça a été complètement bouleversé. Donc alors, il n'y a pas que dans ces régions que... il y a de la production de coton, il y en a dans la vallée du Nil, à différents endroits, enfin, je ne suis pas un spécialiste. Donc sur les questions de cycle de l'eau, il y a effectivement des choses très graves. La pollution, ça peut être aussi la pollution, c'est-à-dire pour les travailleurs, travailleuses de ces industries. Donc par exemple, là, la confection, on a bien l'idée de la fabrication des vêtements, la découpe. Il y a aussi la teinture avec...
La transformation, oui.
La transformation en amont. Donc la teinture des vêtements, ça peut être des produits chimiques très dangereux pour ceux qui les travaillent si on ne prend pas des protections. Et là où le droit du travail n'est pas très protecteur, c'est là où il peut y avoir des dangers pour la santé. Et puis ce qui est spécifiquement pour le climat, c'est effectivement le transport qui est quand même le gros enjeu pour le climat.
Et les déchets donc issus de ces productions également qui polluent les sols, l'eau, etc.
Alors, juste pour rebondir sur les externalités environnementales négatives, c'est surtout les émissions de gaz à effet de serre liées... alors, sur le cycle de vie du produit d'un vêtement, c'est essentiellement sa fabrication, puisqu'en fait, globalement, tout ce qui est filature, tout ce qui est teinture va être très énergivore. Et on sait très bien que les pays dans lesquels on fabrique, l'électricité est alimentée par le charbon, majoritairement. Donc effectivement, là on voit, je ne vais pas parler un petit peu de ce qui se passe, des petits frémissements en ce moment, je dirais des enseignes, mais on ne se pose pas le bon problème, puisqu'en fait tout le monde est parti sur le coton bio, etc. On sait que le coton génère beaucoup d'externalités négatives, mais la question c'est la production qui émet énormément de gaz à effet de serre. Et juste un chiffre, entre 2017 et 2030, selon les statistiques, il y aura une augmentation de la production de vêtements de 63%. Donc ça veut dire toutes ces émissions de gaz à effet de serre émises, enfin toutes ces, enfin qui sont liées à ces cycles de production. Effectivement, et puis après il y a, je dirais, dans l'impact environnemental, tout le gaspillage vestimentaire aval. C'est-à-dire toutes ces tonnes de vêtements, hein, très peu sont recyclés, hein, c'est vraiment très peu, et qui vont déstructurer aussi des systèmes de production locaux, et surtout aussi complètement, alimenter l'addiction des consommateurs occidentaux.
Cécile ?
Il faut savoir que par an, c'est 100 milliards de vêtements qui sont vendus dans le monde. Et sur ces 100 milliards, il n'y en a que 12% qui sont recyclés, donc toujours par an. Donc ça veut dire qu'à la fin, le reste des vêtements qui ne sont pas recyclés et qui ne sont pas réutilisés, ce sont des vêtements essentiellement issus de la fast fashion. Et donc, ils ne se recyclent pas. Et en fait... ces vêtements sont envoyés dans des pays, notamment le Ghana, qui rencontre de très forts problèmes de biodiversité et écologique du fait de ces vêtements qui ont été confectionnés avec des produits toxiques pour l'environnement. Et en fait, quand on va au Ghana, ce sont des montagnes et des montagnes de vêtements qui ne vont jamais être utilisés.
Puis il faut faire attention à... certaines choses qu'on ne savait pas, et puis on découvre un jour qu'on croyait bien faire et puis on ne faisait pas très bien. Longtemps, on a dit que c'est super de recycler les bouteilles d'eau minérale en plastique parce que grâce au plastique, on faisait de la laine polaire. Et on s'aperçoit maintenant que la laine polaire, c'est un petit peu à l'origine des microparticules de plastique qui ensuite vont partir dans les océans et qui sont assez néfastes pour la faune. Donc il faut savoir s'adapter, remettre en cause quand on croyait bien faire et qu'en fait, c'était malheureusement pas le cas.
On va parler aussi du côté pervers ou également de certaines entreprises qui trouvent entre guillemets des subterfuges, le greenwashing, ce fameux terme qu'on voit de plus en plus là et qui se développe. C'est vraiment là pour le coup, c'est le côté pervers où les gens pensent qu'ils font bien alors que finalement c'est vraiment de la publicité mensongère. Cécile ?
Oui, alors je voudrais parler justement, pas forcément de greenwashing, mais des soldes, parce qu'en ce moment, c'est les soldes. Et il faut savoir que dans les entreprises de fast fashion, le prix des soldes est pensé à l'avance. Donc quand les consommateurs et les consommatrices pensent qu'ils vont faire une bonne affaire en achetant un vêtement soldé, ce qu'ils ne savent pas, c'est que le prix a déjà été pensé et que les soldes, c'est 20% du chiffre d'affaires des entreprises de fast fashion.
Isabelle ?
Et même des chefs de produits me disent qu'ils achètent des collections spécifiques pour les soldes.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'on va encore plus loin. C'est-à-dire, qu'on va...
c'est-à-dire que c'est vraiment créé à l'avance juste pour cette période. Voilà. Denis ?
Le greenwashing, c'est une réaction des entreprises aux critiques qu'elles reçoivent. S'il y avait déjà aucune prise de conscience, elles n'auraient même pas besoin de faire du greenwashing. Donc le fait qu'elles en ont besoin, c'est déjà bien. Il faut aller plus loin. Et il y a heureusement des mouvements qui contrôlent ce que font les entreprises et surtout les marques. Et donc dans le domaine de la confection, ce qui est absolument le plus important, c'est que ces entreprises ne se contentent pas d'améliorer ce qu'elles font dans le strict périmètre de leurs activités, mais qu'elles contrôlent ce qui se passe chez leurs sous-traitants, chez les sous-traitants de leurs sous-traitants, chez les sous-traitants des sous-traitants de leurs sous-traitants. Et donc là, il y a effectivement des mouvements qui commencent à se mobiliser pour avoir une exigence de plus en plus forte là-dessus. Et c'est logiquement dans ce secteur la seule manière de sortir du greenwashing et d'avoir une réelle influence. Alors sur l'influence qu'on peut avoir en tant que mouvement, je vais apporter une petite précision à ce que disait Isabelle tout à l'heure. Elle a parlé du pays qui s'appelle le Myanmar, que peut-être certains des auditeurs connaissent mieux sous le nom de Birmanie, avec une junte militaire bien connue qui a imposé une dictature depuis un an. C'est aujourd'hui l'anniversaire. Et par contre, il y a sur certaines entreprises, et là on est plus dans le domaine de l'énergie et du climat, une mobilisation qui s'est faite sur celles qui exploitaient le pétrole au Myanmar, Birmanie, donc par exemple Total. Et l'exemple de Total, qui commence à se désengager de ce pays, montre que l'action des consommateurs est possible. Alors, dans le domaine de la confection, c'est plus compliqué parce qu'il y a les sous-traitants, mais une action bien organisée des consommateurs qui ne soit pas simplement sur un coup de tête, mais qui cherche à avoir un droit de suite, à demander des comptes de manière très précise, logiquement, doit pouvoir avoir de l'effet.
Je vais rebondir sur les propos qui sont tout à fait justes. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle de l'activisme actionnarial. Je veux dire, le retrait total de Birmanie est aussi lié aux actionnaires qui voient, je dirais, ce qu'on appelle la licence pour opérer, hein, dans le jargon, la responsabilité sociale de l'entreprise, mise à mal par le fait d'être associé à une junte militaire. Donc il y a aussi des opérations qui se développent où de nombreuses parties prenantes, il y a beaucoup de parties prenantes aujourd'hui, hein, bien évidemment les associations, les ONG, mais aussi les actionnaires. Alors dans le textile, pas encore. Alors juste pour parler de la mobilisation, je dirais, des enseignes dans le domaine, je dirais, d'une mode un peu plus responsable, enfin, si on peut l'appeler comme ça. C'est la le Fashion Pact, pardon, de août 2019 à Biarritz, où effectivement l'entreprise Kering a été choisie par le président de la République, qui a décidé. Hein, la mode est vraiment le secteur d'activité qui est le plus en retard sur l'ensemble des secteurs d'activité dans le domaine de ces impacts environnementaux et sociaux. Et donc le Fashion Pact, malheureusement, n'a vu que la partie environnementale, c'est-à-dire que dans le Fashion Pact, il n'y a rien sur la partie sociale, qui a été décliné en deux temps sur effectivement les gaz à effet de serre et sur la biodiversité. Aujourd'hui, vous allez sur le site, qui n'est pas très mis à jour, hein, je veux dire, c'est un peu, je trouve que c'est... Et il y a très peu d'engagement, enfin, des marques. Alors sur la biodiversité, j'en parle pas, il n'y a pas de plan d'action. Et globalement, ça fait plusieurs années que j'épluche effectivement les onglets responsabilité sociale de l'entreprise des différentes marques ou les rapports de RSE qu'on peut télécharger. En fait, il n'y a pas de directive. Chacun s'engage sur ce qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, c'est des approches volontaires. Donc, moi, je vais réduire mes gaz à effet de serre en faisant des éco-packaging, etc., etc. En fait, il n'y a pas du tout d'indicateurs clés sur lesquels on pourrait comparer. Alors, heureusement, on a toutes ces petites startups qui arrivent avec ces jeunes pleines d'inventivité qui ont inventé le pendant du UK de la mode qui s'appelle Clear Fashion, où on commence à avoir des informations, parce qu'ils font tout ce travail, et on s'aperçoit que bah, quand on fait des enquêtes auprès des marques et qu'ils ne nous répondent pas, bah voilà, c'est zéro. Et donc on se retrouve avec des classements très bas pour certaines marques très connues.
Avant de parler justement et de presque terminer sur une note peut-être un peu plus positive et de parler des alternatives, il y a aussi le fait que on parlait des soldes, justement, on évoquait, et que c'est à ce moment-là aussi que beaucoup d'entreprises gonflent les prix. Hein, c'est une technique qu'on peut quasi, on va dire, qualifier de trompeuse. Certaines marques, elles gonflent leur prix du vêtement juste avant les soldes. Ça avait été normalement dénoncé par la Direction Générale de la Concurrence, la DGCCRF, mais apparemment, c'est encore banalisé.
Oui, alors il y a des pratiques qui sont très contestables et qui sont parfois dénoncées. Donc il faut toujours avancer dans le droit pour arriver à mieux les éviter. C'est d'avoir une référence de prix à condition que dans les je ne sais pas combien de semaines ou mois auparavant, le même article a dû être présent dans le magasin à un prix plus élevé. Et puis en fait, on s'apercevait qu'il avait été présent très très peu de temps. Il y avait juste un exemplaire en vente, il a été vendu. Ensuite, ils sont de réassortiment. Et puis ensuite, ça arrive les grosses quantités pour les soldes. Donc il y a toujours ça, effectivement, à surveiller, à dénoncer. Et éventuellement à faire améliorer la réglementation pour qu'elle ne puisse plus être contournée de cette manière-là. Mmh.
Ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce que le client vient acheter un vêtement qu'il croit payer moins cher, et en fait, il les paye certainement beaucoup plus cher que de manière habituelle, on va dire. Je ne sais pas si Cécile ou Isabelle voudraient réagir.
Moi, par rapport à justement au sol, on a une kyrielle de petites marques que je stipulerais de mode durable. Je prendrais l'exemple d'une marque qui s'appelle 1083, qui dans son modèle économique a aboli les soldes. C'est-à-dire globalement, on va avoir produire des produits dits, bon, le terme est peut-être pas adéquat, mais un peu intemporel, et on s'engage auprès des distributeurs à récupérer à la fin de la saison ce qui n'a pas été vendu. Et c'est un modèle, je dirais, qui est rentable. D'ailleurs, l'Institut français de la mode a développé un livre blanc sur les nouveaux modèles économiques. Et effectivement, le fait qu'on ait des taux de démarque aussi élevés, on a des vêtements qui sont aidés à hauteur de 60% par les ventes privées, le Black Friday, etc. En fait, ces décotes... mettent à mal, enfin, je veux dire, on parle d'un mode, des modèles économiques qui sont à bout de souffle. On voit bien que la pandémie a eu sa kyrielle de liquidation de nombreuses marques. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'effectivement, des modèles sans solde, où, faut rééduquer aussi le consommateur à acheter ses produits à une juste valeur. Vous prenez un 1083 qui va vendre un jean au même prix qu'une autre marque de jean classique autour de 100-110 euros. Globalement, si vous ne démarquez pas, vous pouvez mettre tout l'argent sur la production et effectivement surveiller toute votre chaîne de valeur, faire des produits avec des matières recyclées, etc., etc., en essayant d'avoir des teintures, je dirais, plus végétales, etc., etc. Donc, tout dépend où on met l'argent. C'est la même chose. On a des marques qui ont aboli la publicité. Et je prends la marque Veja, par exemple, dans le domaine des chaussures. C'est des choix. Et de se dire, les dépenses que vont affecter les grandes marques à la publicité vont être affectées à la production. Et c'est des modèles économiques qui sont complètement viables. Mais la fast fashion, c'est faire du volume avec son corollaire, la vitesse, et prendre un peu de marge sur chaque produit.
Alors, du coup, est-ce que la fast fashion éventuellement éco-responsable, est-ce que c'est possible ou pas ?
Absolument pas. Absolument pas, puisqu'en fait, globalement, il faut réduire. Alors, la fast fashion, on l'a dit, elle est basée sur la vitesse de consommation, la vitesse de production, la vitesse d'imitation. Donc, en fait, c'est antinomique, c'est impossible. Je ne vais pas nommer la marque qui veut s'ériger en tant que, leader de la mode responsable. Mais oui, on peut faire des petites gammes éco-conçues, etc. Mais
ce qu'on appelle les collections capsules, bien ça ?
Alors, capsule, ça peut être une collaboration. Non, capsule, c'est ce qu'on appelle les gammes, conscious, les gammes, qui vont jouer. Mais globalement, non, c'est complètement... C'est un, non, c'est antinomique. Ce n'est pas possible, puisque derrière une mode responsable, c'est une mode plus sobre. Et ça veut dire qu'il faut lutter contre cette addiction. Mais globalement, et effectivement, les marques ne prennent pas ce pli-là. Donc aujourd'hui, alors... Il y a des tentatives assez intéressantes, surtout sur les business models de l'économie circulaire, qui ont pour objectif, d'une part, d'augmenter la durée de vie, et deuxièmement, de travailler sur la circularité des produits et des matières, où on a des marques qui vont commencer à réfléchir à, effectivement, l'entrée par le produit, par des modes de location, on répare, ça repart en seconde main, etc., d'avoir une vision plus longue du produit. Mais on en est qu'aux prémices, parce que là, si vous regardez le phénomène de la seconde main, c'est assez amusant, enfin c'est triste à dire, mais de voir cette rivalité mimétique où toutes les enseignes se sont mises à copier les uns et les autres, à faire un petit corner de seconde main, à développer une plateforme pour développer la seconde main, simplement pour créer du trafic, soit sur leur site, soit en magasin. Il n'y a pas du tout, je dirais, un recul... Sur l'impact environnemental.
Si on est à la recherche d'optimisme, on peut quand même, en écoutant bien ce que vient de dire Isabelle, il y a quand même tous les avantages du même côté. Il y a les avantages pour le consommateur, s'il a des biens plus durables, qu'il n'est pas obligé de changer tout le temps, s'il n'est pas victime de toutes les apparences, des fausses soldes, une fausse mode, une fausse exigence de tout le temps changer. Il peut y avoir donc des avantages aussi pour des entreprises qui se développeraient en étant un peu respectueuses du fait d'exercer une profession de manière un peu correcte, d'avoir un certain professionnalisme. Et puis, il y a l'avantage évident du côté de l'environnement, de ne pas faire exercer une pression trop forte sur les ressources, sur les capacités de l'atmosphère à absorber les gaz à effet de serre, etc. Donc, si tous les avantages, d'une certaine manière, on peut les identifier du même côté, bah voilà, donc ça veut bien dire qu'il y a bien tous les inconvénients de l'autre et ça va finir par se savoir et finalement ça sera peut-être plus facile de passer du bon côté sur d'autres secteurs où peut-être c'est un peu difficile, où on va avoir du mal à trouver tous les avantages d'un côté, tous les inconvénients de l'autre.
Oui, Cécile ?
Pour parler de la seconde main, il y a également l'application Vinted qui propose donc des produits de seconde main. Mais quand on se penche un petit peu plus sur le modèle marketing de l'application, on voit que cette application reprend les mêmes biais en fait que les marques de fast fashion. Et donc, même si elles proposent de la seconde main, les consommateurs et consommatrices sont incités à consommer et à revendre sur l'application. Donc pour arriver à une consommation un petit peu plus durable et éthique, il faudrait plus se poser la question de nous, de comment on consomme et comment on s'extirpe un petit peu de cette envie continuelle de consommer, plutôt que de se dire « Ah ben tiens, je vais acheter un vêtement d'une marque de slow fashion. » Parce qu'en fait, le problème, c'est cette envie de consommer, c'est cette pulsion qui est présente aussi donc, dans la seconde main.
Et pour rebondir sur les propos de Cécile, j'ai une de mes collègues, Élodie Juge, qui a fait sa thèse sur effectivement la plateforme Vinted, et on voit s'ériger ce qu'on appelle des consommerçants. Qu'est-ce que c'est qu'un consommerçant ? C'est généralement une femme qui va passer 4 heures par jour sur Vinted et qui va se transformer en entrepreneur. C'est-à-dire qu'elle va, je dirais, acheter des vêtements, qu'elle va revendre immédiatement, elle va travailler sur son merchandising pour récupérer de l'argent pour se racheter des vêtements neufs. Et effectivement, le problème, c'est qu'on Vinted a encore permis d'accélérer la vitesse, puisqu'en fait, tous les jours, on a des choses nouvelles. Ce qui fait que c'est très addictif pour les jeunes. Et tout en se défaussant, en pensant qu'on fait, je dirais, une bonne action. Alors là, je parle du gaspillage vestimentaire à Val. Ce qui est peut-être intéressant, peut-être une petite note d'optimisme, c'est qu'on voit se développer ce qu'on appelle des business models sur la mode 4.0. Globalement, ça a été initié par un certain nombre de petites marques où on va commencer à produire à la commande ou à la demande. C'est-à-dire que pour limiter le gaspillage vestimentaire amont, on va ne fabriquer que si on a des quantités assez importantes. Et je prends une autre marque de fast fashion dont je tairai le nom. qui a fait cette expérimentation qui était assez intéressante. Ils étaient assez contents d'eux. Ils se sont aperçus qu'en fait, bah, les consommatrices adoraient une pièce intemporelle chez eux. Et ils leur ont proposé, et là, c'est incroyable, hein, la consommatrice, elle attendait 2 mois pour recevoir son manteau. Sauf qu'elle avait le choix entre 3 hauteurs. Elle avait le choix entre 8 coloris. Mais globalement, ils pouvaient ajuster. Les manteaux étaient prêts à être, dans les bains de teinture différents. Et donc, aujourd'hui, il y a tout un courant de recherche qui est vraiment en train de travailler sur la mode 4.0. Et d'ailleurs, il y a un grand groupe, du Nord, qui est en train de développer une usine qui va être en fonction en 2022, qui va fabriquer essentiellement des jeans. Et l'idée, c'est effectivement de produire à la demande, c'est-à-dire qu'on va vraiment ajuster l'offre à la demande. Alors, c'est intéressant parce que on va déjà réduire. Ça ne change rien au modèle de la fast fashion. Enfin, je veux dire, il faudra toujours quand même renouveler. Mais on va peut-être avoir un peu moins de gaspillage vestimentaire à Val.
On parle de gaspillage et selon une étude de l'ADEME qui date de 2007, 470 000 tonnes de textiles se retrouvent dans les ordures ménagères. Et chaque année en Europe, et il y a même une marque dont je ne citerai pas le nom, mais elle a quand même été citée tout à l'heure, qui a été épinglée pour avoir brûlé leurs invendus aussi, également. Donc ça, c'est quand même assez dramatique. Petite note positive quand même, à l'alternative justement à l'anti-fast fashion, eh bien là, je me tourne vers Cécile, puisqu'il y a eu une expo qui est visible, on peut le dire maintenant, jusque fin février, à l'université d'Artois. Donc, alors tu peux nous raconter un petit peu l'expo, ce qu'elle...
Alors pour raconter un peu la genèse de l'exposition, je suis une ancienne consommatrice de fast fashion. Et je me suis posé, j'ai un peu voulu remettre en question ma consommation textile parce que je me suis rendu compte que je consommais énormément et que surtout j'avais très souvent les mêmes pièces dans ma garde-robe, donc 3-4 t-shirts noirs qui ne me servaient à pas grand-chose. Et l'exposition, parce que j'ai fait des études en conception d'exposition, l'exposition a un peu suit un petit peu le cheminement de ma réflexion et j'ai essayé de donner des clés de compréhension à la fois de qu'est-ce que ça implique que de consommer de la fast fashion et qu'est-ce que ça implique de qu'est-ce qu'il faut remettre en question justement pour tendre vers une consommation plus durable et plus éthique.
Alors, du coup, comment elle s'est organisée? Qu'est-ce qu'on peut y voir exactement? Peut-être pour donner un petit peu l'envie aux gens de venir un petit peu voir ce que tu nous as fait.
Alors oui, alors la forme de l'exposition, c'est vraiment important avec des vêtements. Et le contenu de l'exposition, c'est vraiment sur ces vêtements. Donc, j'invite... Les visiteurs et les visiteuses à prendre les vêtements en main et comme ça à comprendre un petit peu quelles sont, par exemple, quelles sont les matières à privilégier. Et en fait, il y a 5 vêtements en tout. Et sur ces 5 vêtements, je les ai pensés comme des portes d'entrée de réflexion sur nos vêtements. Donc j'invite par exemple à regarder les étiquettes de nos vêtements, à savoir les décrypter, ou également comment faire pour conserver un vêtement plus longtemps, pour vraiment penser le vêtement dans la durabilité, et qu'est-ce qu'on en fait ensuite si par exemple le vêtement est troué ou si le vêtement ne nous plaît plus, mais au lieu de jeter, il y a d'autres alternatives qui existent.
Isabelle ?
Juste pour rebondir sur ce que dit Cécile, effectivement, dans le cadre de la chaire que j'ai cofondue avec une de mes collègues sur la mode circulaire qui s'appelle la chaire Tech & Care, on travaille pas mal et comme note positive pour ajouter à ce débat, c'est que, comme le dit Cécile, on s'aperçoit qu'il y a une éducation à faire auprès des consommateurs et que cette éducation, elle, apparaît en ce moment, on a quelques signaux faibles, notamment, et comme le dit Cécile, sur le décryptage des étiquettes. Et là, j'étais assez surprise en scrutant régulièrement, pas 4 heures par jour, hein, vous inquiétez pas, mais ces sites, je m'aperçois qu'il y a de plus en plus d'onglets entretien. Et c'est assez surprenant avec vraiment des conseils pour augmenter la durée de vie du produit. Alors, on peut se dire tout de suite, effectivement, ce sont des acteurs de la fast fashion, c'est du greenwashing, mais Je veux dire, je préfère qu'ils fassent des onglets pour nous dire évitez de laver votre pull dès que vous l'avez mis une fois, on lave trop, etc. Des tutos pour recoudre, notamment adressés aux hommes, hein, pour recoudre un bouton, hein, je veux dire. Et on voit ça fleurir. Alors, une marque très connue dans le monde de vêtements pour enfants qui a encore, des usines en France qui s'appelle Petit Bateau, qui s'est, je dirais, qui a trouvé un positionnement sur la durabilité. C'est vrai que sur Vinted, si on regarde bien les vêtements pour enfants qui se vendent le mieux, c'est Petit Bateau, puisqu'en fait, ce sont quand même des produits qui durent dans le temps. Et globalement, eux, ils ont développé plein de tutos, plein d'éléments pour qu'on dure encore, pour qu'on puisse, en tant que consommateur, aussi être, je dirais, acteur. Pas simplement passif, mais être acteur et se dire bah, comment je fais pour augmenter la durée de vie de mes produits par la réparation, par effectivement la façon de laver, la façon de trier, la façon d'étendre mon linge pour ne pas qu'il perde, qu'il se déforme, etc. Alors, c'est vraiment un élément, je veux dire, qu'on a vu apparaître l'année dernière. Et bien évidemment, toutes les marques se copiant, là, je vois ça prolifère sur les sites. Donc, quelques éléments peut-être positif, bon, c'est vraiment, je dirais, tout petit, mais bon.
C'est un frémissement, on va dire.
Voilà, ouais, un frémissement. Bon, ça ne changera pas le modèle de la fast fashion, mais ça permet aussi à faire prendre conscience, de la durabilité. Et peut-être l'attachement émotionnel aux vêtements. Je pense que c'est ça la clé. C'est comment redonner un attachement émotionnel aux vêtements qu'on achète. Et dans ce cadre-là aussi, puis je vais pas mobiliser la parole, mais on voit aussi des modèles économiques qui sont en train de se développer sur le do-it-yourself. Et on s'aperçoit que quand, avec des marques qui sont en train de développer soit le prêt-à-porter, soit le patron, les tissus, etc. Et on voit quand même une appétence croître chez les jeunes dans le domaine de la couture. Donc, quelques frémissements peut-être.
Il y a de l'espoir. Denis ?
Oui, sur le do-it-yourself en matière textile, on a eu quand même une période intéressante en matière de masques cousus à la maison, c'était assez amusant.
Ah oui.
De ce que je viens d'entendre sur des plateformes qui sont maintenant chez nous, etc., ça implique aussi des questions à se poser sur le transport, non pas d'un continent à l'autre, mais aussi d'un consommateur qui revend à un autre qui rachète, etc. Donc ça conduit à se poser la question de ce qu'on pense de grosses entreprises comme Amazon, par exemple. Et je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est que sur Amazon, il y a quand même une très forte prise de conscience à la fois du caractère assez peu soutenable de son modèle économique, émetteur de gaz à effet de serre, etc. Et aussi une critique très précise de son argument qui est en permanence de dire Amazon crée des emplois. Quand des collectivités veulent accueillir un énorme entrepôt Amazon, ils disent c'est pour créer des emplois. Et là, il y a eu des analyses qui ont permis de montrer que systématiquement, Amazon détruit beaucoup plus d'emplois qu'il n'en crée. Et je pense que c'est un élément à garder en mémoire si, dans un débat sur la fast fashion, il y a des gens qui diraient, on exploite des ouvrières en Éthiopie ou au Bangladesh, c'est notre façon de les aider en créant des emplois. Pensons à ce que tout le monde commence à bien savoir sur Amazon et transposons-le, et il y a sûrement une analyse plus précise à avoir sur ce point.
Et effectivement, il y a des analyses de cycle de vie, d'impact environnementaux et impact sociaux qui sont développés, notamment centres commerciaux versus commerce en ligne. Et on s'aperçoit qu'en termes de création d'emplois, il est clair que les centres commerciaux, ou les boutiques sont beaucoup plus créatrices d'emplois que le commerce connecté.
Pour terminer, on n'a pas évoqué non plus aussi dans cette alternative qui a une durée de vie qui était déjà dans les années 80 ou dans les années 70, c'est les friperies, notamment avec, on peut citer Emmaüs quand même, Secours Populaire également, éventuellement, mais pour un public plus visé. Est-ce que ces friperies, justement, ça revient un petit peu? Il y en a quelques-uns qui viennent d'ouvrir sur Arras d'ailleurs. Est-ce que c'est une alternative aussi? Est-ce qu'on va à Emmaüs autant qu'avant? On y allait pour aller chercher des vêtements un peu vintage, on va dire, entre guillemets?
Alors, sur le modèle, sur les modèles économiques qui étaient dans l'économie sociale et solidaire, je pense Emmaüs, etc., la Croix-Rouge, Oxfam, le problème aujourd'hui, c'est que ont disparu les portants, je dirais, des produits de qualité. C'est-à-dire, vous ne trouvez plus des produits que vous cherchiez. La chasse au trésor, elle a été faite avant. Et globalement, la question de la pérennité de ces modèles économiques est en jeu. Pourquoi ? Parce que vous avez Vinted qui est passé avant, donc toutes les belles pièces sont parties. Et ensuite, avant, ce qu'on faisait, globalement, on ne faisait pas trop le tri. Alors, soit, effectivement, on passait beaucoup dans la famille, et après, on donnait. Mais aujourd'hui, vendre sur Vinted, ça permet d'avoir un petit pécule financier. Et donc, là, il se retrouve avec des masses de vêtements, puisqu'en fait, comme on le souligne, c'est une consommation qui ne cesse de croître, avec des produits de moins bonne qualité. Donc, globalement, moi, je me pose beaucoup de questions sur la pérennité de ces pionniers de la seconde main, du recyclage. Que vont-ils devenir ?
Le mot de la fin pour Denis.
Il y a quelque chose qui a un peu disparu avec la pandémie, c'est les vide-greniers. Donc, ça va sans doute revenir quand on sera sorti de la pandémie. Et dans les vide-greniers, donc il y a des gens qui viennent parfois pour ensuite remballer ce qu'ils n'ont pas vendu et le rapporter l'année d'après. Mais il y en a aussi qui veulent vraiment vider leur grenier. Et je pense qu'on pourrait suggérer aux maires qui souvent organisent les vide-greniers sur leur commune, ça serait relativement simple de mettre comme consigne aux gens qui exposent sur les vide-greniers de distribuer à chacun un gros sac vert en disant le gros sac vert, c'est ce que vous ne voulez pas ramener chez vous, vous le laissez là et nous, on le récolte et on le donne à Emmaüs. Ça pourrait être intéressant.
Eh bien, merci beaucoup à vous trois d'avoir donné de votre temps pour cette petite discussion. Merci donc Cécile Cravero, je rappelle, muséographe, et Le Dessous de nos placards, exposition à voir jusque fin février à l'Université d'Artois. Isabelle Robert, maître de conférence en sciences de gestion consommation, responsable de développement durable à l'Université de Lille, merci. Et Denis Bonnel, membre du collectif Arageois pour le climat, merci beaucoup.
Merci.
Merci.